Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Jacques Serret.
Nous sommes de retour dans les grandes voix d'Europe 1 avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et maintenant, le plus dur est-il passé pour Emmanuel Macron? Réforme validée, loi promulguée. Quelle suite désormais? Emmanuel Macron va prendre la parole dans les prochains jours, s'exprimer devant les Français. La droite propose, et c'est une idée d'Éric Ciotti, une conférence sociale, Catherine. Est-ce que c'est un bâton que peut prendre Emmanuel Macron?
Ah, mais je ne sais pas s'il va saisir ce bâton, mais ça, c'est Éric Ciotti pense à mai 68, après où le pays avait été vraiment arrêté, où il y avait eu des manifs, où il y avait eu quelques voitures brûlées, mais il y avait eu des étudiants en colère. Bon, il y avait un grand Grenelle où on avait lâché énormément de choses sur les salaires qui avaient été bloqués, c'est vrai, par le général de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing, ce qui avait fait enrager d'ailleurs Pompidou. Mais on pouvait lâcher parce qu'il y avait du grain à moudre, parce que les caisses étaient pleines et parce que le pays n'attendait que ça, en avait marre de la chienlit dans les rues, et le pays allait bien. Je veux dire, le pays, il était derrière de Gaulle. Parce que c'était un temps où il y avait la croissance était à 5%. Je veux dire, tous les services publics, enfin, quand ils n'étaient pas en grève, il y avait des grèves aussi. Bon, mais bref, le pays allait bien. Tandis que là, aujourd'hui,
le pays
va mal. C'est-à-dire que plus rien ne marche. Alors, d'abord, les gens, il y a l'inflation qui fait que les gens ont du mal à joindre les deux bouts, mais les services publics ne marchent plus. Donc, c'est tout ça. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse du chef de l'État et qu'il va parler. Mais je veux dire, est-ce qu'il a vraiment... Comment il avait une capacité de séduction, on l'avait vu lors du premier quinquennat. Mais là, je trouve que cette capacité-là, c'est quand même très émoussé. Et il a peut-être un sens politique qui est à revoir. Parce que dire hier, voyez, ne rien lâcher, c'est ma devise.
À Notre-Dame de Paris.
À Notre-Dame de Paris. Moi, j'ai trouvé ça complètement stupide de dire ça ce jour-là, quoi, voyez. Donc, comment peut-il reséduire les Français ?
Gérard Carrérou, oui, peut faire Emmanuel Macron?
Écoutez, on est dans une impasse politique. Parce que quoi qu'ils disent, il a gagné cette bataille, je l'ai dit, je ne vais pas le redire 25 fois. Et il n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer quelques projets ou quelques propositions de loi que ce soit. Donc, l'urgence pour lui, c'est il y a deux choses. C'est calmer le jeu au niveau de l'ordre public. Parce que l'ordre public, on a bien vu dans les derniers temps, c'est devenu une variable dans cette bataille, parce qu'il y a des gens, il y a peut-être eu moins de monde dans les cortèges et tout ça, parce qu'il y avait peur d'avoir des violences, etc. Donc l'ordre public, maintenant qu'en plus la gauche et ses alliés ont perdu, ça va être très difficile. Donc il a l'ordre public. Et deuxième bataille, c'est comment réamorcer un dialogue social. Et c'est là que la stratégie du bad cop, comme on dit en Amérique, du bad cop, good cop est en jeu. Macron, jusqu'à présent, dans cette bataille, c'est le bad cop. Il a tapé, et il a continué à taper jusqu'à cette nuit, avec la promulgation, vite fait. Et puis, elle, Madame la Première Ministre, qu'on disait carbonisée, elle est tout d'un coup un peu ressuscitée ce matin, et elle va apparaître, elle essaye de se positionner comme celle qui... Et la bonne, le bon flic, c'est-à-dire celle qui peut rétablir un peu le dialogue.
Il ne faut pas humilier les syndicats, dit-elle.
Elle l'a dit, il ne faut pas humilier les syndicats, etc. Elle va essayer. Ça va être extrêmement difficile. Parce que pour l'instant, elle va prendre plus de portes fermées dans la figure que de réunions. Voilà, c'est ça le problème.
Mais tous les gens de la majorité qui connaissent... Elisabeth Borne, on dit que effectivement, elle a très bien tenu le coup. Dans beaucoup d'endroits, elle a osé affronter les gens sans brutalité, etc. Mais je pense que malheureusement, le rôle d'un Premier ministre, c'est dans une crise politique qu'on a accompagnée quand même. Je pense que son rôle sera remis en cause et je ne sais pas si c'est tout de suite ou pas tout de suite.
Elle
mais
même
c'est vrai.
Assume le rôle de fusible. Elle l'a
dit. Oui, le rôle de fusible, c'est ça.
Elle
et je ne vois pas.
Elle va essayer de tenir jusqu'à l'été. Ils vont essayer de tenir jusqu'à l'été au moins.
Je ne vois pas les négociations sociales reprendre à un niveau élevé avec exactement la même distribution. Ça, c'est très difficile.
Et j'entends plus que quand tu vois quand même un mur anti-émeute devant le Conseil constitutionnel, quand tu vois que tout ce qui est vraiment symbolique des institutions et de la Constitution, remis en cause par des fous furieux et dont une partie de la responsabilité incombe au syndicat aussi, puisqu'on se donne rendez-vous sur rendez-vous.
Et à la France insoumise.
Et c'est la
également.
Raison pour laquelle j'abonde dans le sens de Michel, il faut changer les personnages et pas simplement quelqu'un qui, en permanence, essaie de retirer la marmite du feu.
Comme dirait l'autre, il faut changer le peuple, alors.
Non, mais il peut y avoir une alliance.
Mais tu ne peux pas aller, sans arrêt contre le peuple ou contre l'adhésion du peuple. Ce n'est pas le sens de ce qu'a installé De Gaulle.
Il faut maintenant qu'il s'en sorte avec une majorité politique. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas s'en sortir. Donc, pour faire, il n'y a pas 36 solutions pour M. Macron et ses alliés aujourd'hui pour faire une majorité politique. Il n'y en a qu'une. Une et une seule. C'est celle d'une alliance sur un certain nombre de points, un contrat de gouvernement avec les LR. Ce qui reste, vous me direz, il n'en reste pas grand-chose, etc. Il y a quand même 40, il y a quand même 40 LR, ou peut-être un peu plus, 45 LR, qui sont prêts, je pense, aujourd'hui, après cette défaite, à faire... Non, mais on va voir.
Au Sénat, à l'Assemblée...
On verra, parce que... Oui,
avec Elisabeth Borne,
la défaite qui s'est passée, elle change les données. Et des LR, très anti-Macron, vont se dire, bon, bah, faut bien faire avec, il a quand même...
Il faut que Laurel et Hardy soient d'accord.
Il faut que Laurel et Hardy soient d'accord.
Oui, absolument.
C'est qui Laurel et Hardy?
C'est-à-dire Laurent Wauquiez et...
Xavier Bertrand.
Oh mais non, mais moi je
le
pense
mince
que déjà.
Et le
non, mais moi, sans aller jusqu'à ces gens qui sont pour l'instant hors du Parlement.
Je sais, il y en a un qui a perdu
déjà,
son portable.
Il y a déjà Éric Ciotti qui est pour ça, et Olivier Marleix qui est le président du groupe qui dit un accord avec les. Jamais. Quand même, c'est ces deux-là qui sont sur le terrain pour l'instant.
Ça va bouger.
Ça, je pense que ça va bouger. Le plus difficile, quand même, c'est aussi de régler ses problèmes avec la gauche, quand même. Parce que, il n'a pas la majorité, il ne l'aura jamais avec la gauche. Est-ce que le NUPES est en train, ou non, de se défaire? Ça, on n'en sait rien. Quand on voit la montée de Ruffin, quand on voit les élections européennes qui arrivent où les Verts iront tout seuls, quand on voit Éric Roussel repartir à l'attaque en allant jusqu'aux socialistes, je ne dis pas que ça marche, mais je me dis qu'il y a aussi, d'un point de vue des mouvements politiques, des choses qui vont changer après ça.
Il a perdu toute sa gauche.
On marque une courte pause, remaniement ou pas dans les prochains jours. A tout de suite sur Europe 1 dans les grandes voix.
Europe 1, Jacques Seret.
Les grandes voix sur Europe 1. Sa réforme est inscrite au journal officiel. Elle la porte depuis le début avec son ministre du Travail, Olivier Dussopt. Elisabeth Borne peut-elle, doit-elle rester à Matignon? Le président est à la recherche d'un nouveau souffle. Est-ce que cela doit passer par une nouvelle incarnation à Matignon? Le président lui avait confié une mission, élargir la majorité. Force est de constater qu'elle n'y est pas parvenue. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit en tirer des conséquences? Question ce matin à Michel Cotta.
Écoutez, peut-être qu'il en tirera les conséquences, mais si on est entre nous et on est entre nous, le principal qui est en cause là-dedans, ce n'est pas la Première ministre, hein, c'est le président de la République.
Bien sûr.
Bon, alors la Ve République fait que le président.
Tu veux dire qu'il devrait changer lui-même d'abord?
Oui, non, mais le président de la République changera son Premier ministre vraisemblablement, je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, pour redonner un souffle. Mais le problème est de savoir quelle image, finalement, le président de la République donnera dans les 4 dernières années de son mandat, parce qu'il y en a encore 4. Et ça, peut-être qu'à la rigueur, il peut déjà se demander ce qu'il fera après son élection, puisque après sa non-élection, ce qu'il fera plus tard, dans 4 ans. Mais en attendant, il doit se demander si c'est pas son personnage à lui qui est en cause, et comment changer son personnage.
Mais justement, Catherine, puisqu'il s'agit là pour Emmanuel Macron de donner une nouvelle impulsion, est-ce que cette impulsion, ce nouveau souffle, peut avoir lieu sans changer de tête à Matignon?
Non, mais c'est qu'un président là, qui a été très vite, pour une fois, dans la décision d'entériner l'avis de promulguer, mais c'est quelqu'un, dès qu'il s'agit de nommer, procrastine et ne sait pas. Mais aujourd'hui, qui doit-il prendre aujourd'hui pour ouverture? C'est quelqu'un qui fait pas monter la température, qui au contraire refroidit. C'est ouvrir, négocier avec, prendre avec l'opposition. Mais sur quoi ce nouveau Premier ministre pourrait-il négocier? Qu'est-ce qui pourrait qu'il trouverait un accord avec LR? Sur quoi? Sur quel? Oui, c'est très très difficile. Et je vais vous dire, il y a peu de candidats. pour être Premier ministre avec Macron. D'abord parce qu'il est Macron et que, comme dit un de ses amis, je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi d'être Premier ministre avec lui. Voilà, il faut quand même dire ce qui est.
Et deuxièmement, faut être indulgent avec Madame Borne.
Oui, il faut être indulgent. Et qui choisir ?
Qui est cet ami ?
Un ami proche, voilà. Ah. Et donc, parce qu'il connaît ce président qui, au fond, n'écoute personne, n'en fait qu'à sa tête. Et c'est très, très difficile. Et on voit dans les... Bon, il y a quelques ministres qui pourraient, certains sont candidats, d'autres moins. Mais est-ce qu'une fois qu'ils sont nommés, est-ce que les choses, soudain coup, comme par miracle, s'amélioreraient et on retrouverait le calme et surtout, on retrouverait une majorité ? Je veux dire, c'est ça le nœud gordien à trancher, que je ne sais pas s'ils veulent trancher.
Gérard, oui, une majorité, il y a un sujet, par exemple, oui, où il pourrait élargir sa majorité de manière... Alors, ça pourrait être le début d'un accord politique dont je parlais tout à l'heure. C'est le problème, par exemple, de l'immigration, de l'ordre public et de l'immigration. De la même manière qu'on a vu 70% des gens contre la loi qui vient d'être maintenant promulguée, il y a 70% dans tous les sondages des Français qui aujourd'hui, de droite, de gauche et du centre, qui sont pour une régulation la fin du flux permanent d'immigration sans contrôle. Sur une base comme ça, il peut effectivement avoir une majorité entre les macronistes du centre et de droite et LR. Oui. C'est un des sujets. Le fera-t-il ? C'est contraire à... C'est ça la question, c'est Macron. C'est contraire à sa philosophie sur ce sujet-là. Oui. Donc, est-ce qu'il ira sacrifier des options personnelles qui ne sont pas du tout celles-là sur l'immigration pour se trouver la majorité qui lui permette de gouverner? C'est une des questions qui est posée.
De toute façon, il n'a plus la gauche.
Alors, justement, il n'a plus la gauche.
L'hypothèse de la gauche est levée.
Non, mais c'est un test
Mais c'est intéressant, quand même.
Charline.
C'est un test très important et très intéressant que cette loi sur l'immigration. Parce qu'elle comporte un certain nombre d'articles, dont l'article 3, qui ressemble mot pour mot à ce qu'ont fait les Suédois, qui l'ont appliqué, qui l'ont voté, qui l'ont appliqué, et qui, aujourd'hui, rétro-pédale, mais d'une manière, avec une force, une volonté, une hantise presque, parce que ça a été, si vous voulez, le déversoir. On a fait rentrer, en quelque sorte, le cheval de Troie au cœur de la Suède, qui est pourtant un exemple de social-démocratie. Quand on se rappelle ce que c'est le pouvoir politique et la pratique du pouvoir politique en Suède. Eh bien, ils ont fait monter l'extrême droite à 18% en Suède, ce qui est absolument sans précédent. Et dès lors, eh bien, ils ne savent plus comment s'y prendre pour refluer, pour arrêter, pour fermer les portes, si tu veux, à ce déversoir de gens qui, soi-disant, sont spécialisés dans leur métier. Ce sont ceux dont on a besoin, nous aussi d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on a gonflé cet article 3, contre lequel d'ailleurs les sénateurs, notamment des Républicains, seront vent debout pour faire adopter cet article 3. Ça va être un sacré match.
Donc il faut qu'ils durcissent sur ce sujet, il faut qu'ils se mettent de plus en plus sur cette position de droite.
Il a une majorité relative déjà, il a une majorité relative,
mais il ne peut trouver...
que sur ce point-là... son parti est divisé. Donc c'est très difficile, en plus une majorité relative, de scinder sa propre majorité.
Et je rajouterais là le Conseil constitutionnel. Parce que lorsque s'est posée l'idée de condamner cet homme qui, à Nice, faisait passer dans les Hautes-Alpes, vous savez, des migrants, et tout ça, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait accueillir les migrants avec fraternité. Avec fraternité. Donc, si on est fraternel, comme le veut le pape et tout ça, eh bien, on ouvre les portes. On accueille tout le monde. Oui. Voilà, c'est ça.
Bon, alors, on verra si Emmanuel Macron enchaîne rapidement sur un autre débat de société après les retraites. En attendant, je vous signale que demain matin, un invité exceptionnel au grand rendez-vous chez Sonia Mabrouk, demain matin sur Europe 1, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en direct entre 10h et 11h. On change de sujet tout à l'heure, mais on continue de parler du président. Nous allons revenir sur une phrase du chef de l'État qui a fait beaucoup parler sur la scène internationale cette semaine. Le président a appelé l'Union européenne à ne pas être suiviste des États-Unis au sujet de Taïwan. Analyse dans un instant dans les grandes voies sur Europe 1.